Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission aujourd'hui Judaïsme au féminin. Comment allez-vous ? Alors j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêtes à passer une petite heure avec moi pour vous renforcer autour Bezrat Hashem de la paracha de la semaine, Parashat Vaera. Cette semaine, on a également la chance de commencer un nouveau mois, le mois de Shvat, qui est un mois de renouveau, un mois où Bezrat Hashem, le 15e jour du mois de Shvat, on fêtera Tu Bishvat, le nouvel an des arbres. Et cette date représente quand même un tournant dans le calendrier, puisque à partir de ce moment-là, on nous dit que la sève commence à monter dans les arbres et que c'est donc le début de la prochaine floraison des arbres Bezrat Hashem. Donc le mois de Shvat, un mois de renouveau, on commence par étudier la paracha ensemble, par essayer de comprendre quels sont les messages de cette paracha pour nous, les femmes. Et ensuite Bezrat Hashem, je pense que dans les semaines à venir, on abordera également le sujet de la comparaison du parallélisme entre l'homme et l'arbre, qui est Adam et Sassadé. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous propose de vous mettre en place une petite pause et on commence si Dieu veut.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sotte de Divrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan ? C'est l'ichement, mitzvota, de garder le mitzvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fêtes juives, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous. Question de Halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Question au Rav, les Rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets, Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.
Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite Léa Benaïm.
Bonjour donc mesdames, nous revoilà pour notre émission Judaïsme au féminin. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, vous êtes les bienvenues. Et comme je le disais avant la pause, aujourd'hui nous allons tâcher ensemble de nous pencher sur la paracha de la semaine, la parachat Vaera, qui est donc la deuxième paracha du Sefer Shmot. Le deuxième Sefer des cinq Sifrei Torah, le Sefer Shmot qui débute donc avec le peuple d'Israël qui est en exil en Égypte. Et donc dans ces parachiotes, on nous décrit comment est-ce que Akadosh Baruch Hu va sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme je le dis à chaque fois, la Torah c'est intemporel. Et ce qui nous intéresse à nous, c'est pas uniquement de comprendre l'histoire, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, quelles étaient les difficultés qu'ils ont rencontrées Qu'est-ce qui leur a permis, qu'est-ce qui a déclenché la Géoula? Tout ça, c'est extrêmement important. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que ça nous touche à nous aujourd'hui. Parce que la Torah, elle est intemporelle. Parce que la Torah, lorsqu'elle nous raconte des événements passés, elle attend de nous qu'on fasse le lien avec nos vies, notre vie aujourd'hui, actuellement, dans l'exil dans lequel nous nous trouvons. Et lorsque je parle d'exil, je parle bien sûr de l'exil personnel et de l'exil du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que bien sûr, comme je vous l'ai déjà expliqué, nous avons traversé quatre grands exils. L'exil de Babel, l'exil de la Perse et de la Médie, l'exil de la Grèce, et l'exil de Rome dans lequel nous nous trouvons actuellement, ce qu'on appelle Galout Edom. Et de ce dernier Galout, donc de l'exil de Rome, nous allons Bezrat Hashem arriver à l'époque messianique, donc la Tkoufa, la période où HaKadosh Baruch Hu va sauf se dévoiler dans le monde à travers le roi Mashiach qui sera donc l'envoyé d'Hashem pour nous aider à voir Hashem, pour nous permettre de vivre Hashem. Il y a également ce qu'on appelle l'exil personnel. À l'intérieur de l'exil du Klal, de l'exil du monde entier, l'exil du peuple d'Israël, il y a également l'exil personnel. L'exil personnel, ce sont toutes les difficultés que nous rencontrons, toutes les épreuves que nous traversons. Comme je vous l'ai dit, le mot Égypte en hébreu se dit Mitzrayim. Le mot Mitzrayim a pour racine le mot Meitzar. Meitzar, ça veut dire une étroitesse. Meitzarim, des étroitesses. En réalité, lorsqu'on parle d'exil, on parle de tout ce qui nous oppresse, tout ce qui est pour nous une source d'étroitesse à l'intérieur de notre âme. Et donc, ce qu'on va chercher aujourd'hui, ce sont des réponses à l'intérieur de l'histoire que les Bnei Israël, de cette sortie d'Égypte des Bnei Israël, qui vont, Bezrat Hashem, nous éclairer pour notre propre sortie d'Égypte, ce soit notre exil personnel ou que ce soit l'exil donc de Edom, l'exil du monde, l'exil du peuple d'Israël, qui, Bezrat Hashem, va aboutir, si Dieu veut, à la venue de Mashiach. Et donc, on va commencer donc par lire cette paracha. Je vais vous lire les premiers psukim, les premiers versets de la paracha, parce qu'on va s'apercevoir de quelque chose d'assez frappant. Et je vais lire avec vous et vous allez suivre avec moi et comprendre ce que je veux dire. Alors, la paracha, elle commence comme ça, je vous le lis en français. Elohim parla à Moshe, il lui dit « Je suis Hachem, je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. En quel chataï et de mon nom Hachem, je ne me suis pas fait connaître à eux. Et aussi, j'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Kénaan, le pays de leur séjour dans lequel ils ont résidé. Et aussi, moi, j'ai entendu la plainte des fils d'Israël que les Égyptiens asservissent. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux fils d'Israël, je suis Hachem, je vous ferai sortir de sous les fardeaux d'Égypte, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai avec un bras étendu et avec de grands jugements, je vous prendrai pour moi comme peuple, je serai comme Elohim. Vous saurez que je suis Hachem, votre Elohim, qui vous fait sortir de dessous les fardeaux d'Égypte. Je vous amènerai vers le pays au sujet duquel j'ai levé ma main pour le donner à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Je vous le donnerai en possession. Je suis Hachem. Donc jusqu'à présent, on voit que HaKadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et lui rappelle la promesse qu'il a fait à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Il lui rappelle que non seulement il va sortir les Juifs d'Égypte, mais qu'il va les amener en Israël. Ces premiers psukim de la paracha sont très forts en message, sont très forts en espoir. Mais malheureusement, on va être très vite déchanté. Pourquoi? Je vous lis la suite. Moshe, donc, après avoir reçu ces paroles d'Hachem, Moshe va donc parler au Bnei Israël. Moshe parla ainsi au Bnei Israël et ils n'écoutèrent pas à cause du souffle court et de la dure servitude. On a ici une promesse d'Hachem très forte. Hachem rappelle Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il leur parle d'Eretz Israël. Il va les amener en Eretz Israël. Il va les sortir de l'asservissement. Et Moshe y vient et il raconte ça au Bnei Israël. Et malheureusement, le verset, il est très court et il est très triste en même temps. Ils n'écoutèrent pas à cause du souffle court et de la dure servitude. En hébreu, kotzer ruach ve'avoda kasha. Alors, c'est un petit peu décevant parce que dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Shemot, on avait vu que l'Ibn Israël, oui, avait cru en Moshe. Il y avait quelque chose en eux qui s'était ouvert, quelque chose qui s'était réveillé lorsque Moshe était arrivé. L'Ibn Israël savait qu'ils devaient être libérés d'Égypte, qu'ils n'allaient pas y passer toute leur vie, que ce n'était pas éternel cet asservissement. Et donc, lorsqu'ils ont vu Moshe arriver, ils ont cru en lui. Et là, Moshe arrive. Et il y a quelque chose en eux qui s'est brisé. Ils n'écoutèrent pas à cause du souffle court et de la dure servitude. Et j'aimerais un petit peu me pencher avec vous aujourd'hui sur ces deux expressions. Parce qu'en vérité, on comprend par là qu'il y a quelque chose qui va empêcher les Bnei Israël de croire dans leur possibilité d'être libérés. Et pour pouvoir être libérés, il faut y croire. Il faut croire en Kadosh Baruch Hu. Il faut croire en le fait que oui, Hachem veut nous libérer, va nous libérer. Mais il y a quelque chose ici qui empêche. Il y a quelque chose qui bloque. Et c'est important d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a bloqué à l'époque pour essayer de retrouver ça à l'intérieur de nous. Pour essayer de voir si à l'intérieur de nous, il n'y a pas quelque chose de ressemblant qui nous empêche d'être libérés. Parce qu'on, bien sûr qu'on veut être libérés. Mais pourtant, la Géoula n'arrive toujours pas. Alors c'est peut-être le moment de se pencher sur ces deux points qui ont quelque part bloqué et en tirer les leçons. Et tirer les leçons de qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nous aujourd'hui. Donc on va essayer d'écouter un petit peu les différents commentateurs de la Torah. On a le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Lisantz, qui dit « Kotser ruach et avoda kasha, souffle court et dure servitude, c'est deux choses distinctes et différentes. » Ok, qu'on ne croit pas qu'il s'agit du même problème, il s'agit de deux problèmes différents. Le Rav Aaron Lichtenstein, il dit que, en réalité, la difficulté que les Juifs ressentaient, c'était qu'ils avaient du mal à prendre du recul sur la situation. Et on peut utiliser une parabole pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire ici. On raconte la parabole du fils d'un roi qui a quitté le palais du roi et qui a tenté sa vie ici et là, et puis malheureusement il s'est perdu, et il s'est appauvri, et il s'est retrouvé à la rue sans rien. Et lorsque le roi entend que son fils est dans une situation comme ça, si triste, il envoie donc des messagers pour essayer de le ramener au palais, pour lui tendre la main. Et donc les messagers du roi arrivent chez le prince, et il le voit vraiment dans une situation, dans une piteuse situation, pauvre, sans rien, et ils lui disent: est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut quelque chose pour vous? Et le prince qui dit: ah oui, j'aimerais tellement des habits. J'aimerais tellement manger un bon repas. Évidemment, les messagers du roi sont tristes. Ils se disent: mais il n'a pas compris. C'est un prince. On lui propose de revenir au palais. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande des habits. Il demande à manger. Il n'a pas compris qu'il y a plus grand que ça. On lui propose beaucoup plus grand que ça. Le Rav Aaron Lichtenstein, il dit qu'un petit peu les Bnei Israël étaient tellement étouffés par l'esclavage qu'ils n'arrivaient pas à voir grand, qu'ils n'arrivaient pas à voir plus loin que le bout de leur nez, si on peut dire. Pour l'instant, ils souffraient. Ils souffraient parce que il y avait beaucoup de travail. Paro, il les asservissait. Vous savez que non seulement il y avait énormément de difficultés l'esclavage de l'Égypte. On dit par exemple qu'il leur demandait de construire des villes qui ne tenaient pas, qui étaient faites sur une sorte de sable, qui en fait, toute la journée, ils travaillaient. Mais le lendemain, lorsqu'ils revenaient, tout ce qu'ils avaient construit, c'était déjà détruit. Et donc, lorsqu'on travaille et qu'on ne voit même pas le fruit de nos efforts, le fruit de notre labeur, c'est encore plus déprimant, c'est encore plus, ça casse encore plus. On raconte également que les Égyptiens donnaient aux hommes le travail des femmes et aux femmes le travail des hommes. Ça aussi, c'est pas la nature, c'est quelque chose également qui casse la personne. Donc on voit que l'Égypte, elle cherchait à casser les Bnei Israël. Et ils réussissaient parce que, comme dans l'exemple du prince, ils n'arrivaient même pas à croire qu'il peut avoir une autre vie. Ils n'arrivaient même pas à voir la possibilité d'une Géoula. Le Mesher Chorma, il nous dit que lorsque Moshe a parlé au Bnei Israël et leur a parlé d'Eret Israël, comme on l'a lu tout à l'heure dans le début de la paracha, Kadosh Baruch Hu leur promet de les amener en terre d'Israël, ils étaient incapables. Le Mesher Chorma a dit qu'ils n'étaient pas capables de comprendre de quoi Moshe parlait. Il nous dit que ils étaient tellement oppressés par le travail que ils arrivent, et tout ce qu'ils voulaient entendre, c'est: on veut manger, on veut se reposer, on veut dormir, on veut des conditions. et ils n'arrivaient pas à voir les grandes promesses que Moshé leur fait. Ça, ils n'étaient pas capables. On sait également que Paro, il essayait de leur donner tellement de travail qu'ils n'avaient pas du tout la possibilité de réfléchir. Le Shem Ishmoël, aujourd'hui je vous amène beaucoup de références, de grands tzadikim, beaucoup pour eux de la chassidoute, du courant chassidique, mais en vérité c'est parce qu'il y a quelque chose, un point commun entre tout ce que je vous ramène. Le Shem Ishmoël, il dit que leur pensée était Meboulbelet. C'est quoi Meboulbelet? Il dit c'est l'inverse de Koar Adat, c'est l'inverse du Dat. Une pensée Meboulbelet, c'est une pensée embrouillée. Ils étaient embrouillés dans leur tête, tout était perturbé, ils n'étaient pas capables, et en vérité, ils n'étaient pas capable de réfléchir, parce que pour pouvoir croire, il faut avoir la possibilité de se poser, de se reposer, de se calmer. On dit que Moshe Rabbeinu va demander à Paro de leur donner le Shabbat, de leur donner un jour dans la semaine pour qu'ils puissent des forces. Évidemment, la seule chose qui pourrait convaincre Paro, c'est de leur expliquer que ce sera plus rentable pour lui. Des esclaves qui se reposeront un jour dans la semaine seront plus effectifs. Et donc, c'est ce qui intéresse Paro. Donc, Paro se laisse convaincre par Moshé et leur donne le Shabbat. Mais très rapidement, Paro, il va regretter. Et il va leur reprendre le Shabbat. Pourquoi ? Parce que le Shabbat, c'est pas seulement le repos du corps, mais c'est également le repos de l'âme. Et c'est exactement ce que les Bnei Israël avaient besoin. C'est ce qui leur manquait. Les Bnei Israël, lorsqu'on parle de Kotser Ruach et de Avoda Kasha, les Chachamim nous disent qu'il s'agit d'une difficulté et psychique, psychologique au niveau de l'âme, et physique. Sur les deux niveaux, les Bnei Israël, ils avaient du mal à écouter Moshé, parce que tant psychologiquement que physiquement, ils étaient fatigués. La fatigue, ça peut être très très dangereux. Et oui, même pour une maman, même pour une femme, c'est important de savoir quand la mère, elle a besoin de se reposer. Lorsqu'on parle de repos, on parle de repos de l'âme et de repos du corps. Les deux sont extrêmement importants. Le repos de l'âme, c'est quoi? C'est savoir arrêter de penser, arrêter de trop penser parfois, se laisser du moment pour rêver, du moment pour espérer, des moments pour prendre du recul sur la vie, des moments pour parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que quelque part, lorsqu'on parle de la difficulté des Bnei Israël et qu'on parle donc de ce Kotser Ruach et de cet Avoda Kasha, je préfère employer les mots de la Torah plutôt que la traduction, et vous avez compris de quoi je parle. Alors, la réponse à cette difficulté, l'inverse du Kotser Ruach et de la Avoda Kasha, c'est ce qu'on appelle le Yishuv Hadaat en hébreu. Yishuv Hadaat, c'est le répit de la pensée, si on peut traduire ça comme ça. C'est réussir à stopper les pensées, à stopper le travail, à tout stopper. Et c'est vrai que le Shabbat, c'est une des clés, c'est un des cadeaux qui nous est donné par Akadosh Baruch Hu pour y arriver. Et ça, lorsque Paro l'a compris, il aura repris le Shabbat. Pourquoi ? Parce que le but de Paro, c'était de les empêcher d'arriver à ce répit de l'âme, d'arriver à ce Yishuv Hadaat. D'ailleurs, un autre des décrets de Paro a été, donc lorsqu'il décide de s'endurcir, d'endurcir son cœur, alors il va leur dire, maintenant, jusqu'à maintenant, vous avez reçu la paille pour construire les briques. À partir de maintenant, je vais rendre votre tâche plus difficile. Vous allez devoir chercher de la paille pour pouvoir vous-même construire les briques, et vous allez devoir faire la même quantité de briques tous les jours qu'avant lorsqu'on vous donnait la paille. Les Chachamim nous expliquent que chercher de la paille, ça rend fou, ça avait la capacité de les rendre fous. Ça leur prenait ce qu'on disait tout le Yishuv Hadaat, parce qu'ils avaient absolument besoin de paille. Et ils cherchaient tous de la paille. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas de paille, ils ne vont pas réussir à faire leurs briques. Et s'ils ne réussissent pas à faire leur quota de briques, ils vont se faire punir, ils vont se faire frapper. Et donc, quelque part ici, par où ils cherchent par tous les moyens, à leur voler leur Yishuv Hadaat. Et en volant leur Yishuv Hadaat, en vérité, ils les empêchent de croire en la Géoula. Et on a compris donc la difficulté que Moshé va avoir de les convaincre de sortir de cet état d'esprit. Et ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, après une petite pause, c'est essayer de trouver quelles sont les solutions pour contrer ce Yetzer Hara, parce que oui, Paro, il est à l'intérieur de nous. De la même manière que lorsqu'on a parlé de Hanouka, on avait dit qu'il existait un grec à l'intérieur de nous, il existe également un Paro à l'intérieur de nous, qui nous empêche de croire, qui nous empêche de nous posée, qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de voir grand. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaye de trouver dans la paracha des clés, des solutions pour nous-mêmes sortir ce paro de l'intérieur de nous. Parce que sortir d'Égypte, sortir d'exil, ne pourra se faire que lorsqu'on aura sorti paro de notre personne. Donc, je vous propose quelques instants, une petite pause, et juste après, on reprend pour essayer de détailler et de développer cette idée. Je vous rappelle que si vous voulez nous envoyer un mail, un message, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, radio@torah-box.com. À tout de suite.
נכשלנו בדרכנו, סלח לנו אב יקר. אם רק בתפל עסקנו, הזנחנו את העיקר. היום רוצים אנו אליך, אל דרך הישר. מקווים בכל ליבנו שעוד לא מאוחר. נספר לך יושב מרום ומה לך נאמר לא מנגד עיניך דבר אינו נסתר ממצולות קוראים אליך כל יכול מי ייתן ועל כל עוונותינו תחמול שיפתחו שערי שמיים נצעק אתה שיפתחו שערי שמיים ניצח אתה המלך גם אם סרנו ממצוותיך אל מלא רחמים היום שבים אנו אליך בבושת פנים זוכרים שבנו האמנת מכל אותם עמים רוצים ללמוד את תורתך באמת ובתמים מה נספר לך יושב מרום ומה לך נאמר הלא מנגד עיניך דבר אינו נסתר פתחו שערי שמיים נצעק אתה המלך ממצולות קוראים אליך כל יכול ניתן ועל כל עוונותינו תחמול שיפתחו שערי שמיים נצעק אתה
תחמור.
Rebonjour les filles. Et donc, nous reprenons où nous nous sommes arrêtés avant la pause. Et donc, je vous expliquais qu'il y avait deux grandes difficultés qui a entraîné que l'Ibn Israël n'arrivait pas à écouter Moshe Rabbeinu. Et donc, on a expliqué que ces deux difficultés, une était d'ordre psychologique, psychique, ce qu'on appelle en hébreu « kotser roar », et une était d'ordre plus physique, « avoda kasha », un travail dur, une servitude physique très difficile. Et on a donc expliqué que le paro, donc pharaon, paro, celui qui asservissait les béné Israël, avait compris comment les amener à ne pas pouvoir croire en la Géoula, à ne pas pouvoir croire en ce que Moshe Rabbeinu venait leur annoncer, venait leur promettre. Et on a expliqué qu'on a donc à l'intérieur de nous également un paro qui nous parle et qui nous asservit et qui nous empêche de croire en la Géoula. Et notre travail, c'est d'utiliser donc la Torah et les enseignements de la Torah pour combattre Paro qui est à l'intérieur de nous. Et donc pour combattre ce Kotser Roar et cet Avoda Kasha, on va utiliser un petit peu les commentateurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans les décrets de Paro, il y avait le Inyan du Shabbat. Comme quoi le Shabbat, Moshe Rabbeinu savait à quel point cela apporterait au Bnei Israël. Et Paro a tenté de leur donner le Shabbat, et lorsqu'il a vu combien de bien ça leur faisait, il leur a repris le Shabbat. Donc on comprend de là que pour pouvoir sortir donc de cette oppression physique et psychologique, Hachem il nous a donné un cadeau. Le Shabbat est appelé un cadeau. Le cadeau du Shabbat, qui est en vérité évidemment, bien sûr, le repos physique, parce qu'on ne travaille pas, on ne fait pas de melachot, mais également le repos psychologique. On nous dit que Shabbat, on doit imaginez que tous nos problèmes ont été résolus. On ne doit pas penser à nos problèmes. C'est vrai également que, étant donné que Shabbat, on n'a pas le téléphone, on est déconnecté des réseaux sociaux, on a une occasion, on a une aubaine, on a la possibilité de se connecter à nous-mêmes sans être dérangé par tout ce qui se passe autour. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est tout le temps sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, tout ce que vous voulez, alors on n'est pas avec nous-mêmes. On n'est pas présent, on n'est pas là avec les enfants, on n'est pas là avec le mari. Et même celles qui ne sont pas ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, il y a les mails, il y a le téléphone. Tout ça, ça nous empêche d'arriver à ce qu'on a expliqué avant la pause, au Yishuv Adat, à ce répit de l'âme. Donc, en réponse aux agressions de Paro, je vous propose d'apprécier le Shabbat, je vous propose de l'embellir, je vous propose de chercher réellement pendant Shabbat à vous connecter à vous-même, à apprécier le fait qu'on ne soit pas dérangé par tous les moyens de communication. Et c'est vrai que ça demande un tout petit peu juste de kavana, un petit peu de pensée, un petit peu réaliser ce que Kadosh Baruch Hu nous donne à travers le Shabbat, un petit peu plus chanter, embellir la table de Shabbat, tout ce qu'on peut faire pour honorer le Shabbat, ça va nous ajouter à ce sentiment, avoir une approche comme ça, comme quoi Shabbat c'est un cadeau. Lorsque Shabbat rentre, c'est un cadeau qu'Hachem me donne. À moi de savoir l'apprécier. Simplement, on peut offrir un cadeau à quelqu'un et cette personne ne l'appréciera pas. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est très important lorsqu'on veut offrir un cadeau à quelqu'un de réfléchir qu'est-ce que cette personne aime, qu'est-ce qui ferait plaisir à cette personne. Je vous dis ça parce que c'est vrai que ça m'est arrivé d'offrir à une amie un cadeau, j'étais sûre qu'elle allait adorer parce que moi j'aimais beaucoup cette chose-là. Et en fait, je me suis aperçue, bon, pas tout de suite, sur le moment elle m'a dit merci, elle était très contente, etc. Et je me suis aperçue qu'elle ne l'utilisait pas du tout. Et qu'en vérité, je m'étais fait plaisir à moi et que si j'avais réfléchi un petit peu plus, alors j'aurais peut-être acheté autre chose parce que c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose qui l'intéressait ou qu'elle avait envie. Donc, pour pouvoir apprécier un cadeau, il faut savoir combien est-ce que ce cadeau il a de la valeur. Donc, pour pouvoir encore plus apprécier Shabbat, réaliser que c'est un cadeau d'Hachem et Hachem il peut pas se tromper. Moi, je me suis trompée avec mon ami. Kadosh Baruch Hu ne peut pas se tromper parce qu'il sait exactement ce dont on a besoin. Il nous connaît mieux que quiconque puisque c'est lui qui nous a créés et il sait exactement ce qui est bon pour nous. Donc pour celles qui ne ressentent pas que Shabbat c'est le cadeau du Yishuv Hadaat, c'est le moment de faire un travail dans ce sens. Et je vais vous dire encore, puisqu'on parle de Yishuv Hadaat, je ne peux pas ne pas mentionner l'Aïd Bo des Doutes. Ce n'est pas possible. Je pense que vous m'avez déjà entendu parler de l'Aïd Bo des Doutes sur Torah Box. J'ai une série d'audios là-dessus. Pour échapper aux difficultés, pour échapper au Kotzer Ruach et à la Avoda Akasha, on est obligé, chaque femme, chaque être humain, de se prendre un moment dans la journée, un moment où on est déconnecté de tout et où on parle à Akadosh Baruch Hu. Avoir un rendez-vous journalier avec Hachem. On arrête tout. On ne va pas évidemment stopper les pensées, parce que les pensées, elles sont là, mais on va prendre ces pensées et on va les tourner vers Hachem. S'il y a des choses qui nous préoccupent, des choses qui nous tracassent, on va raconter à Hachem combien est-ce qu'on est tracassé par ça, qu'est-ce qu'il en pense. Lui parler comme un ami, dit Rabbi Nachman. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que très souvent, lorsque j'en parle, alors je peux trouver des solutions, je peux trouver un certain réconfort que toute seule, je ne trouvais pas. Et si en plus, et en vérité, c'est ça ce qu'il faut faire pendant la beauté des doutes, c'est s'imaginer qu'Hachem m'écoute. Si en plus j'arrive à croire qu'Akadosh Baruch Hu, qui est donc le maître du monde infini, il m'écoute, moi, si petite que je suis, il prend du temps pour moi, si on peut se permettre de parler comme ça, parce que Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus du temps, mais il m'écoute. Si j'arrive à ressentir ça, alors je pourrais toucher à cette notion de Yeshuvada, de répit de l'âme, de savoir que je ne suis pas seule, de savoir que les soucis, ils sont là. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des difficultés. Il n'y a pas une personne qui ne traverse pas d'épreuves, que ce soit physique ou que ce soit moral. Et c'est vrai qu'une des réponses, c'est la Hilbo des doutes. C'est savoir que dans ma journée, j'ai un moment pendant lequel je peux me confier, je peux raconter, je peux parler, je peux déverser mon cœur. On peut faire aussi beaucoup de choses pendant la Hilbo des doutes. Je vous recommande d'écouter la série d'audio. On peut se taire également. Des fois, on a besoin de se taire. Ça fait partie de la Hilbo des doutes. On peut chanter, on peut danser, on peut faire énormément de choses. Donc, c'était juste donc, une deuxième clé. Comment échapper au Kotzer Ruach et à la Avoda Kasha à travers l'Aïd Bodé Doute. On a parlé donc de l'Aïd Bodé Doute et on a parlé du Shabbat. Une troisième clé qui nous est ramenée cette fois-ci par le Or HaChaim du Maroc. Le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar du Maroc, qui nous dit que, sur ces mots, mi Kotzer Ruach, il dit « Oulai qu'il est tzat chez l'Oyoub Netora velo sham ou les eikare kotzer roar » et il termine, c'est ces mots-là qui m'intéressent surtout de vous dire « Ki a Torah marrevet libo shel Adam » il dit qu'il manquait de Torah et que la Torah élargit le cœur de l'homme. En fait, toute cette histoire, c'est une histoire de cœur. Un cœur qui se sent étriqué et oppressé. Et le Or HaChaim nous apprend que qu'est-ce qui élargit notre cœur, qu'est-ce qui nous permet de voir large, qu'est-ce qui nous permet de sortir de ces étroitesses qu'est l'Égypte, c'est la Torah. Lorsqu'on dit la Torah, on dit bien sûr la Torah et les mitzvot. Donc la troisième clé, c'est étudier la Torah, accomplir les mitzvot. On sait que lorsqu'on accomplit une mitzvah, on se connecte à Hachem. Lorsqu'on se rend compte qu'en vérité, notre vie, elle a un sens. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui empêche une personne de sortir la tête de l'eau? C'est quand elle ne voit pas qu'elle a un sens à sa vie. C'est exactement ce qu'on disait avant la pause. On disait que une des difficultés que les Juifs rencontraient en Égypte, c'était que ils devaient construire des maisons, mais qui ne tenaient pas. Qui étaient le soir même déjà écroulées par terre. Et c'est très frustrant parce que tu travailles, mais sans objectif, sans sens. Il n'y a pas de sens à ce que tu fais. Et la Torah, elle vient et elle donne un sens à notre vie. Et lorsqu'on a un sens, qu'on appelle en hébreu une mashmaout, il y a une raison d'être, il y a une raison, on est en train d'agir pour hâter la Géoula, on est en train d'agir pour réparer ce qu'on est venu réparer. Parce que vous savez que depuis la faute de Adam et Chava, nous sommes en perpétuel mode de réparation de la faute de Adam et Chava, de la faute du Etz Hadaat, d'avoir mangé donc du fruit interdit. Et donc, tout ce que je fais, ça contribue à accélérer la Géoula, ça contribue à accélérer ma propre Géoula, ça contribue à réparer ce que je suis venu réparer, ça a un sens. Et Akadosh Baruch Hu nous dit le Ramchal, donc on a parlé tout à l'heure du Ramchal, et je reprends le Ramchal en disant que Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui a vécu à peu près il y a 500 ans, qui a écrit des livres de base comme le Messilat Yesharim, ou Derech Hashem, ou Dat Dvunot, il nous dit le Ramchal, combien, on a expliqué tout à l'heure, on a dit que le Rambam disait que ce Kotzer Ruach, cet Avodah Kasha, c'était un Yetzer Hara. Le Rambam nous dit également qu'Hachem il a créé ce monde pour nous donner. Hachem il a créé ce monde pour que nous profitions, pour que nous recevions de son bien, parce que Kadosh Baruch Hu est le bien absolu et il veut nous donner de son bien. Lorsqu'on réalise ça, que chaque mitzvah, même celle qui est difficile pour nous à faire, parce qu'il y a des mitzvot qui ne sont pas faciles, une femme qui ne se couvre pas la tête et qui décide de se couvrir la tête, c'est difficile. Une personne qui n'est pas shomer Shabbat et qui décide de garder Shabbat et d'arrêter de fumer par exemple ou de prendre la voiture, c'est difficile. Mais lorsqu'on on se fait un travail d'autoconviction, que ce que je suis en train de faire, c'est bon pour moi, mais c'est bon éternellement. C'est pas bon juste à l'instant. C'est pas bon comme quelque chose que je mange et qui est bon à mon palais. Et puis deux minutes après, ce sera pas bon pour ma santé, ce sera pas bon pour mon poids. Non, lorsque j'accomplis une mitzvah, c'est bon pour moi éternellement. Et le Or HaChaim, il nous dit que ce qui manquait au Bnei Israël, c'était la Torah. Et que cette Torah, c'est elle qui a la possibilité d'élargir le cœur de l'homme et de l'amener donc à cet état donc, qui permet la Géoula de Yishuv HaDa'at. D'ailleurs, les Chachamim nous expliquent que lorsque Paro a donné le Shabbat au Bnei Israël, en fait, les Bnei Israël, pendant Shabbat, ils lisaient des Megillot. De quelles Megillot on parle? En vérité, ils n'avaient pas toute la Torah, puisqu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah au Mont Sinaï, mais ils lisaient l'histoire des Avot et des Imaot. Le Sefer Bereshit, on a dit qu'aujourd'hui on était dans la deuxième paracha du Sefer Shemot, les Bnei Israël, le Shabbat, ils lisaient le Sefer Bereshit. Et c'est sûr que c'est ça également qui leur permettait de goûter le goût du Shabbat. Aujourd'hui, Baruch HaShem, on a plein de livres. On a la Torah traduite, on a les Rashi traduits, on a des commentateurs traduits, on a les Midrashim traduits, on a la Torah, on a des livres à gogo. Eux, ils avaient des Megillot. Et le Shabbat, ils les lisaient. Ils lisaient l'histoire des Avot et des Imaot. Et c'est bien sûr également ça qui leur permettait de vivre un Shabbat tel que ils réussissaient pendant Shabbat à écouter leur Neshama, à vivre leur Neshama. Le Sfat Emet, il nous dit sur ce même pasouk, sur les mots Mikotzer Ruach Hu Me'Avodah Kasha, on a fait aujourd'hui beaucoup de commentateurs, j'espère que vous me suivez. Il nous dit que cette difficulté qu'il ressentait, c'était parce que le gouffre, le corps, il était très présent. Ils n'arrivaient pas à écouter leur neshama. Ils étaient asservis, c'était physique. Ils avaient le temps de rien. Et en vérité, ils n'arrivaient plus à être en connexion avec leur neshama. Et il dit que, le Sfat Emet continue, et il dit que le Shabbat, c'est l'inverse de ça. Le Shabbat, on reçoit une neshama yetera, une âme en plus. Et il dit que chaque juif, il a la possibilité, le Shabbat, à travers le fait qu'il ne fait pas de travaux. On sait que Shabbat, il y a 39 travaux interdits et tous leurs dérivés. Le fait que Shabbat, le juif, délaisse la matérialité, il se consacre à sa spiritualité, il est capable d'arriver à écouter sa neshama. Et qu'est-ce qu'il dit? Il termine le Sfat Emet sur ces mots et il dit, et c'est le moment Ouzman, Sheyecholim Lishmoa Dvar Hashem. À ce moment-là, on est capable d'écouter la parole d'Hashem. Pourquoi? Parce qu'on a su équilibrer corps neshama. Et c'était ça le cadeau du Shabbat. Donc on a expliqué, on a donné plusieurs clés, plusieurs solutions, plusieurs réponses à la maca, ce qu'on appelle à la plaie de Paro, qui est le Kotzer Ruach et la Avodah Kasha. On a parlé du Shabbat, on a parlé de la Hitbot des doutes, on a parlé de la Torah et des Mitzvot. Et je vais vous laisser quelques instants pour une petite pause. Et juste après, je vous donnerai d'autres clés qu'on découvre également dans cette paracha et qui sont encore aujourd'hui des moyens de surmonter ce Yetzer Hara qui nous empêche de sortir la tête de l'eau. Je vous rappelle que si vous voulez nous laisser un message, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante radio@torah-box.com. A tout de suite les filles.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le gan, c'est la sauce bédivré Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le gan? C'est l'ichement, mizvota, de garder le mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel. Avec le service question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, ces 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.
Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite Léa Benaïm.
Et nous revoilà donc pour la dernière partie de notre émission aujourd'hui, Judaïsme au féminin, sur Torah Box Radio. Et donc, on s'est arrêté juste avant la pause sur le fait que j'aimerais vous apporter encore une autre clé, un autre moyen de surmonter les difficultés de l'exil, de surmonter les difficultés que Paro, que le Yetzer Hara met sur notre chemin. Et donc, je vais vous parler donc d'une mitzvah qui est en vérité une mitzvah essentielle, qui est beaucoup plus qu'une mitzvah. Il s'agit d'une mitzvah qui se décline en beaucoup de mitzvot, qui est la mitzvah de Ahavat Israël, et vous allez comprendre le rapport. Pour ça, je vais vous ramener un pasouk de la paracha, avec l'explication dessus du Rav Biderman. Le pasouk commence comme ça, il nous dit « Vegam ani shamati et neakat bnei Israël » et moi aussi, j'ai écouté la plainte des bnei Israël. Et le Rav Biderman, il se penche sur le début du pasouk « Et moi aussi ». Pourquoi moi aussi? Et j'ai écouté Hachem dit à Moshe qu'il a écouté la plainte des Bnei Israël. Et le Rav Biderman nous dit que lorsqu'Hachem commence ce pasouk par « moi aussi », il veut nous dire, je vous le lis dans les mots et je vous le traduis. De nouveau, les mots pour moi en hébreu sont incomparables, donc je préfère partager avec vous les mots en hébreu et vous le traduire. « Kikar i an agato shel bore olam » כאשר ישמע איש את צעקת רעהו, ויתמלא רחמים עליו, לעמוד לימינו, להסיר ממנו כל צער ומכאוב, ישמע גם השם לכל נעקתו, ויפקדהו בדבר ישוע ורחמים. Le Rav Biderman, il explique ici, la Kadosh Baruch Hu, il dévoile dans ce passage quelque chose de très très important, et c'est une notion que j'aimerais vous expliquer. Il dit que le pasouk commence par « moi aussi » parce qu'Hachem veut nous apprendre que c'est comme ça, et là je vous fais la traduction, que c'est ainsi qu'Hachem se comporte. C'est comme ça le comportement, la conduite d'Hachem. Il explique, il dit que donc, lorsqu'un homme va entendre le cri de son ami, va entendre la souffrance de son ami, et va se remplir de rachamim, de miséricorde envers lui, et va l'aider à sortir de sa difficulté, alors Hachem également... Et là apparaît le mot « gam » aussi. On a dit que la question était pourquoi est-ce que le pasouk commence, le verset commence par le mot « aussi, moi aussi ». À ce moment-là, Hachem dit « moi aussi, j'écouterai sa plainte et je le délivrerai ». Pourquoi ? Parce que lorsqu'Hachem y voit que nous sommes miséricordieux, alors cela réveille sa miséricorde à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un très très grand principe qu'il faut savoir. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est vrai que on a ramené plusieurs choses qui nous permettent de sortir de cette étroitesse. Mais il y a une autre chose qui va nous permettre de sortir de cette étroitesse, parce que ce inyan, ce sujet que je vais vous expliquer, il fonctionne de deux manières. Premièrement, le pasouk ici, il nous dévoile, Hachem nous dévoile à travers le mot « gam », le mot « aussi » du début du pasouk, qu'Hachem il vient nous dévoiler. Que lorsqu'il voit que nous sommes miséricordieux, alors lui aussi, il va être miséricordieux envers nous et il va nous sortir de ces étroitesses, de cet exil, de ces exils, de ces difficultés, de ce kotseroir et de cet avodah kasha. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe qui s'appelle mida keneged mida, mesure pour mesure, de la manière dont tu te comportes, Akadosh Baruch Hu se comporte envers toi. Et on nous dit également que celui qui est miséricordieux envers son ami, alors du ciel on est miséricordieux envers lui. C'est également un principe que David HaMelech rappelle dans Tehilim, Hachem Tzilcha, Hachem est ton ombre. Et le Baal Shem Tov d'expliquer ce verset, de dire Hachem est ton ombre. Comme toi tu te comportes, Hachem se comporte avec toi. Si toi tu juges favorablement ton ami, alors Hachem il te jugera favorablement. Si toi tu sais être miséricordieux, alors Hachem sera miséricordieux avec toi. Et en réalité, il faut bien comprendre que la manière dont nous nous comportons envers l'autre va influencer sur nous, sur la miséricorde d'Hachem envers nous, mais également sur le monde entier. Et là, j'aimerais vous rapporter une explication très très jolie que j'ai entendue et que j'ai lue du Rav David Breizacher, qui le ramène lui-même au nom de son maître, on va le lire dans les mots dans quelques minutes, qui explique qu'il y a une très grande corrélation entre les mitzvot qu'on appelle Ben Adam la Makom et les mitzvot Ben Adam la Chavero. On sait que dans la Torah, nous avons des mitzvot que nous accomplissons envers Akadosh Baruch Hu, envers Hachem, comme par exemple la kashrout, le fait de manger kasher, le fait de faire shabbat, ce sont des mitzvot qui concernent Hachem et nous. Et puis nous avons des mitzvot qui concernent notre relation à autrui, ne pas tuer, ne pas voler. Et le Rav Breizacher explique qu'il y a une grande corrélation et un parallélisme entre ces mitzvot. Et pas seulement une corrélation et un parallélisme, c'est qu'elles ont une influence les unes sur les autres. D'ailleurs, on voit ça dans la mitzvah de Kibud Horim, le fait de respecter ses parents. A priori, respecter ses parents, c'est une mitzvah de Ben Adam, la Chavero, qu'on accomplit face vis-à-vis de quelqu'un. Mais en réalité, dans le Sefer HaChinuch, donc le Sefer HaChinuch, c'est un livre qui nous dénombre toutes les mitzvot et qui nous les explique également, il nous dit que la mitzvah du respect des parents est une mitzvah qui va nous permettre de respecter Akadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'une personne, elle arrive à ressentir que ses parents qui lui ont donné la vie, qui se sont occupés d'elle, qui lui ont tout fait depuis son jeune âge, elle se doit de les respecter, alors à l'intérieur de son âme, de son nefesh, elle sera capable de respecter également Akadosh Baruch Hu parce que le travail se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc si je fais ce travail vis-à-vis d'être humain, alors naturellement je réussirai également à respecter celui qui m'a mis dans ce monde, celui qui m'a tout donné depuis que je suis née. Donc on voit qu'il y a bel et bien un rapport entre les mitzvot. Mais le Rav Breizacher va plus loin et il explique que il utilise pour ça les explications du livre Tomer Devora qui ramène là-bas les 13 attributs de bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il ramène justement nos juifs en Égypte. Et il explique que c'est justement parce que les juifs en Égypte avaient fait preuve de miséricorde les uns envers les autres que Akadosh Baruch Hu a décidé de les libérer, exactement comme on vient d'expliquer. Lorsque je donne, lorsque je suis miséricordieux, j'attire la miséricorde sur le monde et entre parenthèses, je sors d'exil et donc je sors de mon étroitesse. Et je vais me permettre de vous lire dans les mots du Rav Breizacher parce que je trouve qu'il parle très très bien et il écrit très bien également. Et donc il dit comme ça, le lien direct entre le comportement envers notre prochain et le ciel, la clé de la clémence divine qui dépend de l'attention que nous accordons à notre prochain. Ce secret nous est révélé par Rabbi Moshe Cordovero dans son Sefer Tomer Devora, où il nous livre les 13 clés qui correspondent aux 13 attributs de la clémence divine exprimés par le prophète Micha dans les versets que nous récitons dans le Tachlir de Rosh Hashanah. Nosé avon, vover al pécha, l'ichérit nachalato, loéchéziklad apo, etc., etc. Et donc, dans la suite de ce texte, le Rav Breizacher, il explique, il revient donc dans à l'exil d'Égypte, et il dit comme ça. Lorsque Moshe Rabbeinu est allé demander à Paro de libérer l'Ibné Israël, celui-ci s'est entêté à déclarer, alors que jusqu'à maintenant il leur avait été fourni la matière première pour fabriquer les briques, la paille, dorénavant ce serait aux esclaves juifs eux-mêmes de s'approvisionner en paille tout en continuant à fournir la même quantité de briques. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Les Hébreux sont entrés dans les champs des Égyptiens pour ramasser la paille, et alors qu'ils leur expliquaient que c'était pour construire des villes de dépôt pour eux, les Égyptiens, ils les chassèrent en les rouant de coups. On voit ici que les Égyptiens, bien qu'ils ont bien compris que les Israël venaient chercher de la paille pour eux, dans leur intérêt, ils ont quand même été mauvais au point de les renvoyer. Par contre, les responsables hébreux, qui avaient à leur charge de faire travailler leurs propres frères pour obtenir le quota journalier, préférèrent se faire frapper par leurs supérieurs égyptiens, quitte à en mourir plutôt que de bousculer et maltraiter leurs frères. Ce contraste terrifiant de la cruauté inhumaine des Égyptiens et d'autre part de la piété surhumaine des responsables hébreux a amené la délivrance d'Ebné Israël et la punition des Égyptiens, explique Rabbi Eliaou Lopian, donc le Lev Eliaou, le Rabbi Zacher cite le Lev Eliaou, et donc explique le Rabbi Eliaou Lopian. Plus encore, ajoute Rav Matityahu Salomon sur les paroles de son maître le Lev Eliaou, et il dit comme ça, « J'ai entendu de mon maître, dit-il au nom du Zohar, que lorsque pèse sur l'homme la rigueur divine et qu'Hachem voudrait faire intervenir sa clémence, il présente à l'homme une situation dans laquelle ce dernier se devra de réagir avec clémence. Par exemple, un pauvre qui demande la tzedaka de manière à ouvrir au ciel la porte de la clémence divine. C'est donc qu'Hachem a créé la situation à laquelle ont été confrontés les responsables hébreux de façon à ce qu'ils puissent, par leur réponse, faire mériter le peuple d'Israël entier. » C'est en réalité l'attribut de l'Ishérit Nachalato. On a parlé des 13 attributs, un d'entre eux s'appelle Ishérit Nachalato et il dit que c'est cet attribut qui a été utilisé par Hachem et déclenché par le comportement des responsables hébreux. Le Tomer Dvora explique que l'attribut de miséricorde l'Ishérit Nachalato correspond à une pitié d'Hachem du fait qu'il considère le peuple d'Israël comme un proche parent, comme un enfant et même s'il mérite d'être puni, au bout d'un moment, le père ne peut plus supporter de voir son fils souffrir. Ainsi, Hachem lève la punition qui pesait sur l'Ibné Israël pour mériter l'ouverture de cette porte au ciel. L'Ibné Israël doivent eux aussi se comporter comme des proches parents, des frères, les uns envers les autres. Lorsque les policiers hébreux ont fait preuve d'une immense dose d'amour fraternel envers ceux des Hébreux qui étaient sous leur ordre, au point de mettre en péril leur propre vie, ils ont déclenché la sortie d'Égypte par la mida de l'Ishérit Nachalato. La situation difficile et éprouvante n'était pas là pour punir le peuple d'Israël, mais pour leur faire mériter par leur réponse ce qu'ils n'avaient pu mériter jusqu'alors. Il continue encore, mais je vais m'arrêter là. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était très très beau comment le Rav Rezacher, donc il utilise ses maîtres pour expliquer comment est-ce que le fait de développer en nous de la miséricorde envers autrui, le fait de se dépasser, de se surpasser à ce niveau-là. On raconte l'histoire d'une femme, ça me rappelle une histoire d'une femme qui n'avait pas d'enfant et qui était partie voir un grand Rav. Je ne me souviens plus c'était qui le Rav. Et elle lui avait dit... Je souffre, j'ai pas d'enfant, j'aimerais tellement, donnez-moi une bracha, Rav, pour que je puisse avoir des enfants. Et le Rav qui lui répond, mais Dieu ne te doit rien. À ce moment-là, lorsqu'elle a entendu ça, elle s'est sentie complètement désespérée. Elle a senti que le Rav, il voulait lui dire par là que si Dieu ne me doit rien, bien sûr qu'il ne me doit rien, mais j'ai quand même l'espoir. Si le Rav, il me dit que Dieu ne me doit rien, c'est que c'est fini, c'est que peut-être qu'a été décrété sur moi que j'aurai pas d'enfant. Mais le Rav, il continue rapidement et il lui dit, Dieu ne te doit rien. Mais si toi aussi tu fais pour Akadosh Baruch Hu quelque chose que tu n'es pas obligé, que tu ne dois à personne, alors peut-être que tu réveilleras du ciel cette mida, cet attribut de monter envers toi. Cette femme, elle est sortie et elle a compris qu'elle allait faire quelque chose dans sa vie qu'elle n'était pas obligée de faire. Alors il y a plusieurs avis, j'ai lu cette histoire dans plusieurs endroits. Dans un des avis, on nous dit qu'elle a été acheter des bonbons, acheter des cadeaux pour distribuer aux enfants malades dans les hôpitaux, chose qu'elle n'était pas obligée. Et Baruch Hashem, l'histoire se termine bien, cette femme est tombée enceinte et a eu des enfants. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Si je veux, on veut attirer sur nous la miséricorde d'Hachem. Et c'est, je pense, ce qu'on veut le plus en ce moment. On veut qu'il n'y ait plus de maladies, on veut que les gens ne tombent plus malades, on veut qu'Hachem nous envoie la Géoula, nous envoie Machiar. On veut arrêter d'entendre des gens qui souffrent, des gens qui sont dans des situations tellement compliquées. Moi, j'entends parfois des gens qui m'appellent et je sens combien est-ce que Kotser Roach et Avodah Kasha, combien est-ce que les gens sont oppressés. Alors, la Torah, elle nous dévoile un secret. Si nous, on se comporte un peu plus que ce qu'on est obligé parfois au niveau de la miséricorde, au niveau de l'amour du prochain, au niveau de juger favorablement, ah ben on va attirer sur nous et sur le monde ce comportement. On raconte également l'histoire d'un, et je vais terminer avec cette histoire, l'histoire d'un jeune homme qui, vers l'âge de 17-18 ans, s'est cherché. Et un petit peu, c'était un homme qui était chassid, donc qui habitait, qui avait qui faisait partie d'une famille de chassidim. Vous savez, les chassidim, ils ont un accoutrement, etc. Et avec leur shtraimel, les shtraimel, etc. Et ce jeune homme en a eu marre et a commencé à changer sa manière de s'habiller et à un petit peu s'ouvrir au monde. Et puis, 19, 20 ans, il commence à se rendre compte qu'il aura du mal à trouver une femme en étant différent du milieu dans lequel il a grandi. Et donc, il décide de se reprendre un petit peu pour avoir l'espoir qu'on lui présente une jeune fille bien. Et Baruch HaShem, on lui présente une jeune fille très bien. Il se marie, mais le shtraimel, il veut toujours pas le remettre. Vous savez, le shtraimel, c'est le grand chapeau des chassidim, comme ça, en fourrure. Mais ça, il a du mal, il veut pas le remettre. Il sent que c'est trop difficile pour lui. Et Baruch HaShem, il est tombé sur une bonne femme, une femme très gentille, qui lui a donné des forces pour se reconstruire, pour reprendre confiance en lui, confiance dans sa capacité d'étudier, de servir HaShem, de faire ce qu'il faut. Et au bout de quelques années de mariage, il se décide à remettre le shtraimel. Il se dit, ça y est, je sens que c'est le moment, que j'ai envie de le remettre. Et donc il va et il s'achète un shtraimel, il pense faire une surprise à sa femme. Shtraimel coûte 2 000 $. Et il rentre à la maison, tout fier de son shtraimel, et sa femme qui lui dit, mais moi je veux pas que tu mettes ça, je t'ai pas connu comme ça, je me suis habituée à vivre avec toi comme ça, et ça me dit rien que tu remettes le shtraimel. Et il lui dit, mais je comprends pas, j'ai payé 2 000 $, comment est-ce que tu peux me dire une chose pareille? Et sa femme, elle lui dit, non, ça m'intéresse pas. Et le jeune homme, il savait tellement pas quoi faire, il est parti voir le Rav Auerbach. Et il a raconté au Rav Auerbach, il a dit, je me suis acheté un shtraimel, j'ai mis toutes mes économies pour l'acheter, je pensais que c'était bien, je pensais que ça allait faire plaisir à ma femme, je pensais que ça faisait partie de mon ascension spirituelle, et elle veut pas entendre parler. Et le Rav Auerbach, il dit, tu sais, ton shalom bayit, il est plus important que 2 000 $. Mais je vais t'aider. Mon shtraimel à moi, il est très très abîmé. Et franchement, j'ai besoin d'un nouveau shtraimel. Donc je te propose de te l'acheter, s'il te plaît. Et il lui sort 2 000 $ et il lui donne ses 2 000 $. Et le jeune homme, il est très content, c'est l'aubaine pour lui, donc il lui vend son shtraimel et il rentre chez lui. Et Baruch HaShem, il retrouve son shalom bayit. Le Rav Auerbach, il s'aperçoit, dans la synagogue, en mettant ce shtraimel, que le shtraimel est beaucoup trop grand pour lui. Et ses élèves qui lui disent, mais Rav, t'as acheté un shtraimel à 2 000 $, mais c'est pas votre taille, il est trop grand pour vous ce shtraimel. Et le Rav qui dit, mais parce qu'il est grand, j'ai encore plus de simra, parce que il me va même pas, et j'ai réussi à ramener le shalom bayit dans une maison d'Israël. Ça, c'est ça l'amour du prochain. Ça, c'est le véritable amour du prochain. Et c'est avec des actes pareils qu'on attra la Géoula Bezrat Hashem. Voilà, j'espère qu'on s'est renforcé ensemble. Moi, personnellement, oui, toujours avec vous, je me renforce. J'espère que ça a été pareil de votre côté. Je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer un message à l'adresse mail suivante, radio@torah-box.com. Et je vous rappelle, pour sortir de l'étroitesse, Shabbat, Idbo des doutes, Torah et Mitzvot, Ahavat Israël. À très bientôt.